Washington Irving, le stupide campagnard. Il s'écoula bien du temps, dit Burson, avant que je reçusse quelques nouvelles de mon cousin et de son héritage. À dire vrai, ce sujet me faisait tant de mal que je désirais autant que possible l'écarter de mon esprit. Enfin, le hasard me conduisit dans cette partie de la province où je ne pus m'empêcher de prendre quelques informations. Et j'appris que mon cousin, en se formant, était devenu plus que jamais un personnage ignorant, opiniâtre et grossier. Son ignorance et sa grossièreté l'avaient empêché de se lier avec les familles honorables de son voisinage, en dépit de son immense fortune. Il n'avait pas même réussi à obtenir la main de la fille du pasteur, et il s'était enfin vu refermé dans les limites d'une société telle que peu s'en former au village un homme qui n'est que riche. Il avait un grand nombre de chevaux et de chiens, et il tenait une table ouverte où il réunissait les débauchés du voisinage et quelques libertins d'un village voisin. Comme il ne pouvait rassembler d'autres sociétés, il se mettait à boire et à fumer avec ses domestiques, qui, en retour, le pillaient et le méprisaient. Cependant, malgré toutes les apparences de la prodigalité, il y avait en lui du levain de vieil avare, et il prouvait de quel père il était son digne fils. Il thésaurisait sur ses revenus, il était mesquin dans ses dépenses et parcimonieux en plusieurs circonstances où un homme comme il faut doit être plus que libéral. Les domestiques étaient tenus de travailler par intervalle aux terres du château, et on avait labouré une portion de terrain jadis consacrée à l'agrément et aujourd'hui cultivée avec économie. Sa table, quoique abondante, était mal servie. Ses liqueurs étaient fortes et mauvaises. Et l'on consommait chez lui de la bière et du whisky, bien plus que du vin généreux. À sa table, il était arrogant et grossier. Il exigeait de ses obscurs et obséquieux convives l'hommage qu'il croyait dû à tout homme opulent. Quant au vieux John, son grand-père, il était bien impatienté du ton de hauteur que son petit-fils avait pris avec lui, et ils se brouillèrent peu de temps avant que l'héritage fût recueilli. Le vieillard s'était retiré au village voisin. Il vivait du lait de son ancien maître dans une petite chaumière dont il sortait aussi peu qu'un vieux rat sort de son trou pendant le jour. Ce jeune ours mal léché semblait, comme Caliban, avoir pour sa mère un attachement d'instinct. Elle demeurait avec lui, mais par suite d'une longue habitude, elle se conduisait plutôt en servante qu'en maîtresse de la maison, car elle prenait part à toutes les occupations des domestiques et se trouvait plus souvent à la cuisine qu'au salon. Voilà les renseignements que je recueillis sur mon cousin, sur ce rival qui m'avait ravi toutes mes espérances d'une manière inattendue. Je sentais maintenant un désir irrésistible de revoir les lieux où j'avais passé une partie de mon enfance et de jeter un coup d'œil sur le genre de vie si bizarre que l'on menait dans chacun dans le château de mes ancêtres maternels. Je résolus de m'y rendre dans un déguisement. Mon imbécile de cousin ne m'avait pas vu assez longtemps pour reconnaître mes traits, et quelques années apportent toujours une grande différence entre l'adolescent et l'homme fait. J'appris que le nouveau propriétaire élevait des bestiaux et qu'il était fier de ses connaissances et de ses succès. Je m'habillais donc en gros fermier et au moyen d'une légère balafre rouge sur le front, ma physionomie fut entièrement changée. 3 heures venaient de sonner quand j'arrivai à la grille du parc. Je fus reçu par une vieille femme qui savonnait du linge dans un petit bâtiment ruiné. Autrefois, le logement du portier. J'avançais à travers les restes d'une superbe allée dont beaucoup d'arbres avaient été coupés et vendus comme bois de charpente. Les terres ne me semblèrent pas beaucoup mieux cultivées que pendant la vie de mon oncle. Le gazon était étouffé par de mauvaises herbes. Les arbres n'étaient ni élagués ni dépouillés des branches mortes. Le bétail paissait sur les pelouses. Les canards et les oies nageaient dans le vivier. Et le chemin pour arriver à la maison offrait peu de terre, peu de traces de route de carrosse, car mon cousin ne recevait guère de visite que de gens à pied ou à cheval. Il lui-même ne se servait jamais de voiture. Une fois, cependant, à ce que l'on me raconta, il avait fait retirer de la remise pleine de poussière et de toile d'araignée le vieux carrosse. Et il l'avait fait nettoyer et s'en était servi pour aller avec sa mère à l'église du village, prendre solennellement possession du banc de famille. Mais il fut accompagné de tant de huées et de clats de rire en traversant le village, de ricanements à la porte de l'église, que le char de triomphe ne reparut plus. Comme j'approchais de la maison, une légion de jeunes dogues fit une sortie en aboyant contre moi. Ils étaient accompagnés de deux vieux limiers décrépits qui hurlaient plutôt que d'aboyer, et que je reconnus pour les chiens gardes du corps de mon oncle. L'édifice avait toujours un aspect négligé et délabré, quoiqu'il y eût eu du changement en mieux depuis ma dernière visite. Plusieurs des croisées étaient brisées et bouchées avec des planches. D'autres avaient été murées pour les exemptés de la taxe. Je remarquai cependant de la fumée qui sortait des cheminées, phénomène très rare autrefois, et en passant près de la partie du bâtiment où la salle à manger était située, j'entendis l'explosion d'une bruyante gaieté. Trois ou quatre voix élevées en même temps, et les jurements et les chants de et les rires s'entremêlaient d'une horrible manière. Les aboiements des chiens avaient fait venir à la porte un domestique, grand vilain rustre, qui avait passé un habit de livrée par-dessus les vêtements d'un garçon de charrue. Je demandai à voir le maître du château, mais on me répondit qu'il était à dîner avec des messieurs du voisinage. Je déclinai mes qualités et j'envoyai savoir si je pourrais lui parler relativement à son bétail, car j'avais un grand désir de le voir au plus tôt et au milieu de ces orgies. On revint me dire qu'il était en compagnie et qu'il ne pouvait s'occuper d'affaires, mais que si je voulais entrer et prendre quelques rafraîchissements, j'étais le bienvenu. Je passai donc dans le grand vestibule où des jouets, des chapeaux de toute espèce et de toute forme étaient entassés sur une table de chêne. Deux ou trois butors de domestiques restaient là, les bras croisés. Tout avait un air de négligence et de manque de soin. Les appartements que je traversais avaient le même aspect de décadence et de malpropreté. Les rideaux, jadis riches, étaient fanés et couverts de poussière. Les meubles ternis et tachés. Et en sortant de la salle à manger, j'aperçus une réunion bizarre de campagnards à l'air commun et grossier, placés autour d'une table où l'on voyait des bouteilles, des pots, des cruches, des pipes et du tabac. Plusieurs chiens étaient couchés à terre ou assis près de leur maître comme pour les garder. Il y en avait un qui rongeait son os sous le buffet, et le maître du festin occupait le haut bout de la table. Oh, je le trouvais beaucoup changé. Il avait pris de l'embonpoint, sa peau était grasse et luisante, sa chevelure épaisse et d'une couleur ardente. Son maintien était un singulier composé de bêtises, de sottises, d'orgueil et de suffisance. Il était habillé avec toute l'élégance des gens du commun, des culottes de peau, un gilet rouge et un habit vert. Et comme ses convives, il était évidemment un peu trop coloré par la boisson. Toute la compagnie fixa sur moi des regards stupides, comme on devait s'y attendre d'hommes qui ont les sens obscurcis par la bière plutôt que par le vin. Mon cousin, oh Dieu me pardonne, ce nom s'arrête dans mon gosier. Mon cousin, ou comme il le pensait lui, avec l'amabilité d'un supérieur, me pria de prendre place à la table et de boire. Nous traitâmes les sujets ordinaires de la conversation, la pluie et le beau temps, la récolte, la politique et la dureté des temps. Pour mon cousin était un bruyant politique, et l'on voyait qu'il était habitué à ne point rencontrer de contradictions à table. Il était étonnamment royaliste. Il parlait de donner pour le soutien du trône jusqu'à sa dernière guinée, comme c'était le devoir de tout homme riche et bien né. Le collecteur du village, qui était à moitié endormi, n'avait que la force de s'écrier à chaque mot que disait mon cousin « Bien, très bien !» Mais la conversation tomba sur les bestiaux. Mon cousin inventa ses troupeaux, sa méthode de croiser les races, et en général, sa manière d'administrer tous ses biens. Malheureusement, cela le conduisit à l'histoire du château et de celle de sa famille. Il parla de mon oncle défunt avec la plus grande irrévérence. Je lui pardonnais facilement. Bientôt, il prononça mon nom, et mon sang se mit à bouillonner. Il rapporta mes fréquentes visites à mon oncle, dont quand j'étais enfant, et j'appris qu'à cette époque, le drôle savait déjà qu'il hériterait de toutes tes possessions. Il décrivit la scène de la mort de mon oncle et de l'ouverture du testament avec une teinte de causticité que je n'attendais pas de lui. Quoique vexé par que j'en fusse, je ne pus m'empêcher de rire avec les autres, car j'avais toujours aimé les plaisanteries, même lorsqu'elles se faisaient à mes dépens. Il en vint ensuite à mes divers projets, à mon expédition errante, et ceci commençait à m'échauffer un peu. Enfin, il parla de mes parents. Il se moqua de mon père. Je le supportais encore, quoiqu'avec peine. Et il parla de ma mère avec un air railleur, ricaneur. Ah, à l'instant même, je l'étendis à mes pieds. Une scène de tumulte s'ensuivit. La table fut renversée, verres, bouteilles, cruches, tout croulait en éclats sur le plancher. Les convives se saisirent de nous afin de prévenir quelque malheur, mais les efforts pour me dégager, j'en fus beaucoup et j'étais bouillant de rage. Mon cousin me criait de me déshabiller, de venir me battre avec lui sur la pelouse. J'acceptai. Oh, je me sentais la force d'un géant. Nous sortîmes, un cercle fut formé. On me désigna un second, selon l'usage des boxeurs. Mon cousin, en s'avançant pour le combat, dit quelques mots sur la générosité qu'il y avait de sa part de me faire un si grand honneur quand je m'étais attaqué ainsi à sa table sans aucune provocation. « Ah, arrêtez !» criai-je en fureur. « En provocation ?»« Mais apprenez que je suis John Firstborn !» et que vous avez insulté ma mémoire de ma mère. » Ah, ces mots, le butor parut frappé tout à coup. Il recula et réfléchit un moment. « Oh, diable, dit-il, c'était trop fort. C'est de toute autre affaire. J'ai aussi une mère. Personne n'en dirait du mal avec, devant moi, quelque méchante qu'elle fût. » Il s'arrêta de nouveau. La nature semblait éprouver une rude combat dans son cœur endurci. « Cousin, s'écria-t-il, que le diable m'emporte, Oh, je me suis fâché de ce que j'ai dit. Oh, tu m'as traité comme je le méritais, en m'insultant, en m'étrillant. Et je ne t'en veux ainsi que mieux, je ne t'aime que mieux de cela. Voilà ma main, allez, viens vivre avec moi, et que le diable m'emporte si la meilleure chambre de la maison et la meilleure cheval de l'écurie ne sont pas prêts à ton service. J'avoue que je fus fort ému par ce mouvement affectueux de la nature qui se faisait jour à travers une si épaisse enveloppe de chair. Je pardonnais au butor ces deux crimes à la fois, d'être né d'un mariage légitime et de m'avoir enlevé mon héritage. Je serrai la main qu'il m'offrait pour lui prouver que je ne lui gardais pas rancune. Et puis, me frayant un chemin à travers la foule de ces parasites ébahis, je dis un éternel adieu au domaine de mon oncle. C'est la dernière fois que j'ai vu mon cousin. Je n'ai plus entendu parler de lui, ni de rien de ce qui regarde le château des Doutes.